Bienvenue donc en direct du SIAMS, vous l'avez dit, le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques qui s'est ouvert ce matin. Et on est ensemble jusqu'à 13h30, vous l'avez dit, on s'autorise d'avoir la tête dans les étoiles un petit peu, mais on gardera quand même les pieds bien ancrés sur Terre avec nos invités. C'est le domaine de l'aérospatial qui va nous intéresser, bien représenté ici au salon à Moutier. Bonjour Roland Keller.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes grand reporter de l'espace, vous avez vécu plus de 40 lancement de fusée au plus près. Vous nous partagerez ces émotions. Avec nous également Gilles Feuzier, Head of Technology and Science au Space Center de l'EPFL. Vous évoquerez la formation, notamment dans le domaine. Bonjour.
Bonjour.
Et puis avec nous Raymond Kérisson. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Bonjour. CEO de l'entreprise de Lémontaine Précidip qui fabrique notamment des connecteurs pour le domaine spatial. Alors, on plonge avec vous, Raymond Kérisson, tout de suite dans le vif du sujet. Donnez-nous des exemples concrets d'applications de pièces que fabrique Précidip et qui se retrouvent dans l'espace.
Nous avons des contacts et le connecteur qui sont en contact avec le système de chargement de batterie. Et là, on a le colon qui est assez importante entre le système de chargement, le solaire, le panneau solaire et la batterie à l'intérieur. Ça, c'est une des applications. Nous fabriquons jusqu'à 50 000 contacts par semaine dans ce domaine. C'est un business important. Aujourd'hui, il représente environ 5% de nos chiffres d'affaires. Et c'est un business très, très intéressant, en pleine croissance. On a commencé il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, on voit à 5% de nos chiffres d'affaires, c'est un business intéressant.
On peut aussi citer, par exemple, des satellites. Hein. Vous vous retrouvez dans des satellites. Également un peu l'industrie de défense, l'industrie militaire américaine, c'est juste?
Oui. Bah, si on parle de le militaire, c'est plutôt par terre, hélicoptère, avion. Dans l'espace, c'est plutôt les satellites, où on est très présente dans le monde des satellites aujourd'hui.
Et Précidip, on peut le dire, parce que peut-être que vous êtes un peu modeste, mais Précidip a failli se retrouver sur Mars. Vous nous racontez cette anecdote?
On n'a pas allé, mais on était sur un système de caméra qui a dû aller sur le premier rover sur l'espace. Et le fabricant du système de caméra, il a choisi notre technologie en termes de système de contact. Mais malheureusement, à la fin, c'était l'autre fabricant de caméra qui a gagné le parcours, on peut dire, sur... On a perdu l'opportunité. C'était plutôt une opportunité de marketing. Ce n'était pas en vente volume, mais la possibilité de dire Précidip sur Mars, c'était une occasion merveilleuse en termes de marketing qui, on a loupé l'occasion liée à la concurrence de caméra.
Mais peut-être une question encore d'avenir, on y reviendra avec vous. Gilles Feuzier, l'innovation spatiale, est-ce que ce dont on va parler pendant cette demi-heure, c'est uniquement un fantasme de scientifique ou ça a un réel impact sur notre vie quotidienne à tous?
Alors bien sûr, ça a un impact énorme sur notre vie quotidienne. On utilise tous les jours des systèmes spatiaux, en fait. Déjà, simplement, quand vous allez faire vous promenez, vous cherchez votre lieu de destination sur votre téléphone, vous allez vous connecter à un satellite pour avoir la navigation, un GPS ou un autre système de navigation. Les systèmes de télécommunication modernes sont tous basés, même la fibre optique terrestre a besoin de spatial pour fonctionner. On a besoin du spatial pour la référence de temps. En fait, le temps mondial est donné par des satellites, des horloges atomiques sur les satellites. Pas de transaction bancaire sans cette référence très précise de temps. On ne peut pas avoir de transaction bancaire. Les réseaux électriques, par exemple, ça c'est aussi un élément important. Les réseaux électriques, d'Europe sont interconnectés sur tout le continent, du Portugal à la Turquie, du sud de l'Italie, de la Sicile jusqu'au Cap Nord. Et pour connaître l'état de ce réseau, pour pouvoir éviter des blackouts, on a besoin d'avoir une référence de temps à la nanoseconde près, ultra précise. Et le seul moyen d'avoir cette référence de temps, ce sont des satellites. Donc tous les jours, on utilise ces éléments satellitaires.
À l'EPFL, vous proposez une formation en technologie spatiale. Hein, c'est dans le cadre d'un master. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la Suisse est bien positionnée en termes de formation dans ce domaine?
Alors, je pense qu'on a une très bonne formation. C'est vrai qu'à l'EPFL, on a ce qu'on appelle le mineur en technologie spatiale. Un mineur, c'est une addition à son diplôme de master. Donc, on fait des études en génie mécanique, en microtechnologie. On est dans la région de la microtechnologie, en physique, en informatique. Et à son master, on ajoute une spécialisation spatiale. ce mineur en technologie. Donc, en fait, sur 120 crédits globaux pour le diplôme de master, il y a 30 crédits qui vont pour le mineur. Et là, on a des cours, un projet de semestre dans le domaine spatial. Donc, c'est un élément extrêmement important. Il y a aussi beaucoup d'associations d'étudiants à l'EPFL qui font des projets spatiaux, parce que le spatial, c'est vraiment un domaine de collaboration. On ne peut pas travailler seul dans son coin. C'est vraiment multiculturel. C'est vraiment des projets où on a besoin d'une équipe. Et c'est vraiment une opportunité énorme pour les étudiants de pouvoir travailler en équipe, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent au cours, mais surtout de collaborer, d'apprendre à collaborer. Et on a plus de 400 étudiants qui font partie de la Spacecraft Team, la Rocket Team, la Rover Team, qui s'appelle Explore, et ainsi de suite.
Et on reviendra sur ces aspects de collaboration, notamment entre le monde académique et industriel avec vous, dans nos échanges suivants. Roland Keller, rappelez-nous combien de lancements de fusées vous avez vécu sur site ? Précisément
46 lancements, mais vous savez, c'est pas monotone d'en voir un 47e, parce que c'est toujours une question d'adrénaline. Lorsque la fusée décolle, on voit que toutes ces flammes qui sortent de la fusée, on a l'impression que c'est tout le monde qui a travaillé, pas dans les flammes, mais autour de la fusée.
Et quelles émotions pour vous qui êtes sur place ? Le premier, c'était dans les années 80. Qu'est-ce que ça provoque comme émotion à chaque fois ?
En 1981, le 12 avril 1981, le premier vol de la navette Columbia, on a le sentiment d'être envahi par le lancement, mais il faut que la fusée soit quand même à une certaine hauteur pour que le bruit revienne vers nous. Le sol tremble quand même un peu, mais la fusée continue jusqu'à une certaine hauteur, et puis après, on est soulagé.
Roland, il y a quelques jours, c'est la mission Artemis 2. Là, on est maintenant en 2026, qui est revenue sur Terre. Les astronautes, pour ne citer que ça, mais ont battu le record du trajet le plus éloigné de la Terre pour des humains. En quelques mots, pourquoi cette mission a marqué un tournant ?
Eh bien, parce que, en fait, elle est un tournant parce que les astronautes sont allés très loin. Ils sont allés plus loin que la mission Apollo 8 en 1968. C'est quand même un tournant. Ils ont tourné autour de la Lune 6000 km de plus que Apollo 8. Bon, comme ça paraît peu, mais c'est quand même extraordinaire parce que leur distance était très grande par rapport à ce qui était fait avant avec Apollo 8. Ce qui fait que quand ils ont tourné autour de la Lune, ils ont pu voir la face cachée et puis la Lune les a remis sur la bonne orbite pour pouvoir revenir sur la Terre.
Raymond Kérisson, Gilles Feuzier, quand on évoque le domaine du spatial, peu importe qu'on soit dans le monde industriel ou académique, ce que vient de décrire Roland Keller à l'instant, on le vit forcément un petit peu, on vibre forcément un petit peu pour ce domaine-là, chacun à votre niveau.
Ah oui, certainement, oui. Je pense que c'est le côté passionnant du domaine spatial, même quand on est du côté industriel. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie spatiale, donc je sais ce que ça signifie. Mais on est quand même face à des gens qui ont les yeux qui brillent. Il y a une émotion réelle quand on a du matériel qui part dans l'espace, quand on participe à une mission. Vous parliez de Mars. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur le projet de la mission Rosetta, l'Agence spatiale européenne, sur cette comète. Et je sais qu'il y a du matériel que j'ai eu dans les mains qui se trouve maintenant sur cette comète. C'est quelque chose qui fait, qu'on le veuille ou non, briller les yeux. Pardon.
Raymond Kérisson, pour vous aussi, il y a forcément un petit peu d'émotion, comme dit Gilles Feuzier, les yeux qui brillent, quand on sait que certaines de nos pièces se retrouvent dans l'espace.
Mais certainement, nous avons vu les vidéos de fusibles, et quand ils lancent le satellite avec notre produit là-dessus, c'est l'émotion, c'est la fierté. Non, le savoir que notre pièce, elle doit fonctionner. S'il ne fonctionne pas, le satellite, voilà, il ne fonctionne plus et on ne peut pas y aller pour le réparer. Sur les pièces, elles doivent être parfaites. Et nous, on doit faire des millions de pièces chaque année qui doivent être parfaites, parfaitement fabriquées et contrôlées avant de la livraison. Elles doivent être propres, etc. Et on voit tout ça, on voit le fonctionnement qui est lié à nos pièces. Et ça, voilà, l'image de le satellite qui part de le fusible et le rocket, et de voir, c'est en vidéo, tout le monde le voit, c'est transmis dans l'usine, c'est vraiment des moments émotionnels et une grande fierté pour la société.
Merci beaucoup d'être avec nous. Il est 13h16. Je vous propose d'évoquer maintenant les opportunités et puis les défis d'investir ce domaine de l'aérospatial. Raymond Kérisson, pour Précidip, vous êtes actif évidemment dans bien d'autres domaines, mais avoir investi ce domaine spatial, qu'est-ce que ça représente pour vos affaires, pour le business tout simplement ?
Mais comme je dis avant, ça représente aujourd'hui 5% de nos chiffres d'affaires. Nous estimons, dans notre planning et notre communication avec les clients, le business doit tripler entre aujourd'hui et il y a dans 3 ans. So, nos attentes, c'est de tripler nos chiffres d'affaires dans le spatial dans les 3 ans qui viennent. Et ça, c'est lié plutôt à le nombre de satellites qui vont être lancés. Vous savez que vous avez Blue Origin, on a SpaceX, qui lance des dizaines de milliers de satellites. Et on est avec les deux sociétés. Voilà, on travaille, on essaie d'être leur fabricant de choix.
Et l'industrie de la défense, peut-être plus spécifiquement, est-ce que ça représente aussi déjà un débouché présent ou futur pour vous? Parce qu'évidemment, avec le contexte géopolitique actuel, on entend les pays qui investissent dans leur défense. Est-ce que ça aussi, c'est important pour Precidip?
Oui, c'est important. La défense, aujourd'hui, si on parle de... ça représente environ 20% de nos chiffres d'affaires. Et ça, c'est en croissance aujourd'hui. Ça, ce qui est intéressant pour nous dans ce secteur, c'est vraiment le composant au point. On parle de le composant qui a un diamètre, par exemple, externe de 0,5 mm, avec 5 composants à l'intérieur qui doivent être fabriqués dans la microtechnologie. Et c'est ça que notre passion, c'est ce type de travail, c'est ce type de précision dans la fabrication et l'assemblage et le contrôle.
Et est-ce que c'était facile, vous l'avez dit il y a 3-4 ans, de développer ces compétences spécifiques pour l'aérospatiale? Elles étaient déjà présentes au sein de l'entreprise?
Non, elles n'étaient pas présentes au sein de l'entreprise. On a basculé le focus de la société dans la microtechnique et là, on a pu utiliser beaucoup de savoir-faire de le jour. Honnêtement, ce n'était pas à cause du soutien local de nos partenaires dans le micro-manufacturing, le micro-usinage, on ne pouvait pas rentrer dans ce secteur. Et aujourd'hui, on a une grande réussite lié au soutien que nous avons eu par nos partenaires locaux.
Gilles Fesier, ce dialogue du monde académique avec l'industrie dont on parlait déjà brièvement tout à l'heure, je vous vois écouter attentivement les propos de Raymond Kérisson, c'est quelque chose d'essentiel?
Alors bien sûr, c'est essentiel. Disons qu'on doit vraiment collaborer avec l'industrie au niveau de la formation. On a parlé du mineur, mais à l'EPFL Space Center, au centre spatial EPFL, nous avons aussi un réseau qui s'appelle Space Innovation, un réseau de membres qui est composé d'une quarantaine d'entités suisses qui sont actives dans le spatial, une majorité d'industriels, aussi des membres académiques, aussi des membres des centres de recherche, type le CSEM, l'EMPA sur les matériaux à Dubendorf, mais qui est composé majoritairement d'industriels avec qui on doit dialoguer, on doit discuter, qui ont des besoins très différents, ça part de start-up, qui ont des besoins initiaux, qui ont besoin de beaucoup d'aide pour entrer dans le marché spatial, à des grands acteurs du spatial suisse, comme Beyond Gravity, comme des sociétés comme APCO Technologies, à Aigle, qui sont des sociétés très bien implantées dans le domaine spatial en Suisse. Mais c'est un dialogue qui est essentiel. Et on soutient ces activités par des besoins, par l'organisation aussi de conférences. L'année passée, on a organisé une grande conférence sur les mécanismes spatiaux à Lausanne, ce qui est aussi un moyen de valoriser toute cette compétence suisse.
Et c'est peut-être une question croisée pour vous deux, mais Raymond Kérisson, est-ce que selon vous, la formation suisse dans le domaine est aujourd'hui à la hauteur des ambitions du monde industriel? Et puis, inversement pour vous, Gilles Fesier, est-ce que l'industrie suit les ambitions de formation et d'innovation? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je sens d'être gâté. Je suis gâté parce que je suis dans un environnement où nous avons un savoir-faire extraordinaire. Et notre concurrence, ils n'ont pas cet avantage que nous avons. Et ça, c'est un point fort dans notre positionnement dans le marché. C'est le fabricant suisse de précision, 100% contrôlé, que notre concurrence, ils ne peuvent pas le faire. Donc, on a l'accès à certains marchés qui, les autres, ils sont exclus. On est des fois le fournisseur seul. Et on n'a pas concurrence, parce que la pièce que nous fabriquons, les autres, ils peuvent rêver de la fabriquer, mais de réaliser, ils ne peuvent pas. Et c'est avec le partenariat, avec le usinage, l'outil de coupe, de faire un produit précis à la micron près, dans les assemblées, notre concurrence, ils sont bluffés par notre compétence, et nos clients aussi.
Gilles Fesier, vous partagez cet enthousiasme?
Alors, je pense qu'on a la chance d'avoir un très bon réseau de formation en Suisse. C'est vrai que c'est un réseau qui fonctionne bien, avec des écoles qui fonctionnent bien, avec les PFL, les TAZN, mais aussi toutes les HES. On a vu la HE Arc qui est présente ici au SIAMS. Et c'est vraiment c'est un réseau qui est excellent et qui, je dirais, essaye de s'adapter. Parce que ce n'est pas finalement à l'industrie à s'adapter à notre réseau, c'est à nous de s'adapter aux besoins du marché, aux besoins de l'industrie. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire attention de bien le maintenir. C'est vrai qu'actuellement, on est plutôt dans une phase de coupe budgétaire, donc il faut qu'on fasse attention à maintenir. Mais pour le moment, je suis en confiance, dans le sens, je pense que ce réseau est très bon. Et les hautes écoles, on parle de formation, mais on parle aussi de recherche, d'innovation. Vous parliez d'innovation. Et c'est vrai que les PFL est vraiment un centre d'innovation technologique. C'est vrai qu'à l'EPFL, il n'y a pas de centre de recherche spatiale. Par contre, il y a beaucoup de laboratoires qui développent des technologies qui ont potentiellement un intérêt pour le spatial, que ce soit des technologies, que ce soit des matériaux, que ce soit des microtechnologies, que ce soit des systèmes de capteurs, différents éléments qui peuvent avoir un intérêt pour le spatial.
Roland Keller, quel regard vous portez sur ce domaine spatial en Suisse? Comment se positionne le pays en comparaison à ses voisins ou à d'autres pays, par exemple? Avec votre regard un peu d'expert, vous avez vécu des lancements, vous savez aussi comment ça se passe autour de nous.
Eh bien, la Suisse est bien placée dans le domaine spatial par rapport à ce que Gilles disait tout à l'heure, avec toutes ces entreprises et ces formations qu'il y a, ces multiples sociétés qui travaillent dans le spatial. Alors la Suisse, elle est bien placée de ce côté-là par rapport à la France aussi, qui est un pays quand même qui est plus grand, l'Allemagne aussi. Mais nous, même qu'on n'a pas d'agence spatiale comme les autres pays, eh bien, on peut quand même se défendre par rapport à ça.
Peut-être, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes ou aux industriels qui nous écoutent et qui auraient cette fibre pour le domaine spatial? Pourquoi faut-il se lancer, selon vous?
Ben, parce que il faut avoir la foi déjà, hein, la foi avec un FOI majuscule et la foi toute simple. Et puis pourquoi? Ben, parce que ça peut apporter beaucoup de choses, le spatial. Ça, si vous voulez. Ça provoque quand même de l'enthousiasme et c'est dans les hauteurs.
Avant de se quitter, j'aimerais vous entendre tous les trois sur les perspectives d'avenir. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, mais peut-être aussi vos rêves pour l'industrie, pour l'innovation spatiale en Suisse. Gilles Feuzier, partagez-nous peut-être un objectif, une perspective du Space Center de l'EPFL à moyen terme.
Alors, c'est de continuer cette collaboration et c'est même de la développer. Je dirais qu'on est un peu dans une phase aussi d'opportunité, dans le sens où longtemps, l'Europe comptait essentiellement, je dirais, sur les États-Unis pour le spatial, pour les moyens de lancement, pour les projets, pour les missions. Et avec un peu la fermeture qui a lieu actuellement, l'Europe doit se recentrer sur ses compétences. Aussi, certaines technologies ne sont pas disponibles en Europe. Typiquement, dans les composants électroniques, il y a beaucoup de composants qui sont des composants américains, avec des restrictions, parce qu'on a parlé de défense, mais le spatial est vu, d'un point de vue américain, en tout cas, comme à double usage. C'est-à-dire que l'usage militaire est toujours présent. C'est-à-dire qu'il faut des autorisations pour pouvoir exporter du matériel spatial. Et l'Europe doit vraiment compléter ses compétences. Et ça, c'est aussi une opportunité pour la Suisse de développer ses compétences, de mettre en avant ces technologies, sachant que le spatial, ça reste un domaine de niche qui est extrêmement important pour notre vie tous les jours, mais c'est un domaine de niche. Donc il faut motiver les industriels, et ce, je trouve génial que des sociétés comme Precidip se soient vraiment mis dans ce domaine-là, parce qu'on a vraiment des technologies qui sont hyper intéressantes pour le spatial en Suisse, mais où parfois les industriels, oh, mais c'est un petit marché, donc l'intérêt est limité, avec beaucoup de contraintes, beaucoup de fierté aussi, hein, ça permet aussi d'apprendre énormément de choses, mais c'est des contraintes, voilà.
Raymond Kérisson, vous partagez cette relative fermeture des États-Unis. Ça peut être une opportunité pour l'Europe et pour la Suisse?
Oh, je pense que l'Europe, maintenant, avec la situation géopolitique et autres, il faut être indépendante. Il faut être autonome. Hein, voilà. Et il est en grand mouvement aujourd'hui d'être autonome. Et l'espace, la communication, de maîtriser nos environnements, c'est un point clé. Sur l'Europe, il doit se développer, il doit mettre les moyens derrière pour ce développement. Et nous, clairement, on veut être un acteur de soutien, de support de ce développement, de cette évolution.
Et votre rêve peut-être le plus fou pour Précidip ces prochaines années, qu'est-ce que c'est? Peut-être tenter ce retour sur Mars ou autre chose?
Clairement, nous en fait sur Mars, sur la Lune, partout. Nous fabriquons, juste pour vous donner un chiffre, nous fabriquons environ 10 millions de pièces par jour. So, d'être partout, c'est notre objectif. Et voilà, l'espace, voilà, on est déjà partiellement là, mais on veut dominer le monde de l'espace avec nos composants. Ça, c'est ma rêve.
Roland Keller, le mot de la fin pour vous, parce que cette relative fermeture du marché américain des États-Unis, vous l'avez vécu aussi au plus près, c'est de plus en plus compliqué d'assister à des lancements dans ce pays-là, sur place.
Effectivement, avec Artemis 2, justement, qui a eu lieu au mois de février, au mois d'avril, pardon, les accréditations ont été très limitées. Il y avait 1200 journalistes d'accrédités. Et d'habitude, quand il y avait un lancement avec le premier, le Columbia, là, en 1981, on était plus de 2000 journalistes. Et j'ai demandé à la NASA, mais pourquoi vous ne me prenez pas, finalement? Il y avait 1200, puis avant, vous en preniez 2000. Oui, mais voyez, on n'a plus les moyens de payer quelqu'un pour... s'occuper de vous. Pourquoi ? Parce que l'administration Trump a décidé de réduire le budget de la NASA de 25%. Plus de sous, plus de Roland à Cap Canaveral.
Alors, plus de Roland à Cap Canaveral, mais Raymond Kérisson le disait, on veut être partout. Est-ce qu'on verra bientôt un astronaute suisse sur la Lune ?
Sur la Lune, pas forcément, parce que c'est quand même compliqué. Il faut déjà qu'ils y retournent, les Américains, hein, ça c'est une chose. Mais dans l'espace, il y a des chances qu'on ait Marco Siber, puisque...
Le Biennois,
puisque l'Agence spatiale européenne a décidé de louer beaucoup de place dans la fusée Falcon 9 de SpaceX. Et puis, ils pourront mettre 4 astronautes européens. Donc, ça pourrait être au mois de mars-avril. Donc, il y a beaucoup de chances qu'ils partent en 2028. Avril, peut-être, ça sera le SIAMS.
Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin donc pour ce prochain salon déjà, alors que celui qu'on vit actuellement a commencé ce matin seulement. Merci beaucoup Roland Keller, Raymond Kérisson et puis Gilles Fesier. Bon après-midi à vous trois. Merci d'avoir participé à cette table ronde que vous retrouvez en intégralité sur notre site internet. Merci également Steve pour la réalisation, Yves pour la technique. Et puis on vous donne déjà rendez-vous demain pour un nouveau moment d'échange en direct du SIAMS. Nous évoquerons les nombreux défis qui touchent l'industrie de l'arc jurassien et le rôle des autorités cantonales dans ces crises à répétition. Rendez-vous demain en direct dès 13h. Le SIAMS se poursuit jusqu'à vendredi. Bon après-midi à tous.